Le 20 mars 1775, la deuxième convention de Virginie se réunit à l'église épiscopale Saint-Jean de Richmond, en Virginie. Que faire? La guerre a éclaté à Lexington Green. Les colonies américaines se demandent ce qu'elles doivent faire. Le 23 mars 1775, un homme nommé Patrick Henry prononce un discours. Il a dit, « Si nous avons eu la bassesse de le désirer, il est maintenant trop tard pour nous retirer de la compétition. Il n'y a de retraite que dans la soumission et l'esclavage. Nos chaînes sont forgées. Leur tintement peut être entendu dans les plaines de Boston. La guerre est inévitable. Et qu'elle vienne, je le répète, monsieur, qu'elle vienne. Et c'est en vain, monsieur, que l'on cherche à l'atténuer. Les hommes ont beau crier « paix, paix », il n'y a pas de paix. La guerre a commencé. » Le prochain coup de vent qui viendra du nord fera retentir à nos oreilles les fracas des armes. Nos frères sont déjà sur le terrain. Pourquoi restons-nous ici à ne rien faire? Que voudrait-on qu'on fasse? La vie est-elle si chère ou la paix si douce qu'elle s'achète au prix des chaînes et de l'esclavage? Que Dieu Tout-Puissant nous l'interdise. Je ne sais pas ce que les autres peuvent faire, mais moi, je veux la liberté ou la mort. Mais plus de 200 ans plus tard, nous ne vivons pas dans un monde nouveau, dirigé par les colonies américaines, rempli de liberté. 2 milliards de personnes, soit un quart de la population mondiale, vivent aujourd'hui dans des zones déchirées par la guerre, selon les Nations Unies. On estime à 84 millions le nombre de personnes déplacées de force en raison de conflits, de violences et de violations des droits de l'homme, et à 274 millions le nombre de personnes qui auront besoin d'une aide humanitaire en raison des conflits, a déclaré mercredi le secrétaire général des Nations Unies, selon cet article de la NPR. Dans son intervention devant la Commission de consolidation de la paix des Nations Unies, Guterres a déclaré que le monde connaissait le plus grand nombre de conflits violents depuis 1945. Date de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il a indiqué que le monde est aux prises avec les plus grands nombres de conflits depuis 1945 et a proposé un plan pour apporter la stabilité dans des pays tels que le Yémen, Myanmar, Syrie, Soudan et Ukraine. Voici un autre domaine. Près de 49 millions de personnes âgées de 12 ans et plus aux États-Unis, soit plus d'une personne sur 6, souffraient d'un trouble lié à l'utilisation d'une substance en 2002, selon les données d'enquête publiées lundi par le ministère américain de la Santé, toujours selon un article de CNN. Parmi elles, environ 30 millions de personnes souffraient d'un trouble lié à la consommation d'alcool et 27 millions d'un trouble lié à la consommation de drogue, dont environ 6 millions d'un trouble lié à la consommation d'opioïdes. L'enquête a révélé qu'environ 8 millions de personnes souffraient à la fois de troubles liés à la consommation d'alcool et de drogue. Les troubles liés à la consommation de substances sont considérés comme graves pour plus d'une personne sur 5. Dans notre monde supposément rempli de liberté, qu'en est-il de la pauvreté? 48 millions de personnes dans le monde, environ 8% de la population mondiale, vivent en extrême pauvreté, ce qui signifie qu'elles subsistent avec moins de 2,15 $ par jour. Qu'en est-il de l'esclavage? Selon walkfree.org, l'esclavage moderne est caché à la vue de tous et fait partie intégrante de la vie aux quatre coins du monde. Chaque jour, des personnes sont trompées, contraintes ou forcées de se mettre dans des situations d'exploitation qu'elles ne peuvent ni refuser ni quitter. Chaque jour, nous achetons des produits ou utilisons des services qu'ils ont été contraints de fabriquer ou d'offrir, sans nous rendre compte du coût humain caché. On estime que 50 millions de personnes vivaient dans l'esclavage moderne chaque jour en 2021, soit une augmentation de 10 millions de personnes depuis 2016. Il existe un autre domaine d'esclavage, celui du vapotage. Il y a quelques années, le Dr. Mike Eisenberg, cardiologue de l'Université McGill au Canada, a recommandé à l'un de ses patients, un fumeur qui avait tout essayé pour arrêter mais sans succès, d'essayer le vapotage. Cela a fonctionné. Son patient a arrêté de fumer. Mais récemment, le même patient est revenu avec un nouveau problème. Il est désormais dépendant des cigarettes électroniques. Le docteur Eisenberg raconte que l'homme lui a dit « Je veux arrêter la cigarette électronique. Que dois-je faire? » Personne n'a de réponse à cette situation. Près de 20 ans après l'arrivée des cigarettes électroniques aux États-Unis et ses millions d'utilisateurs, on ne dispose toujours pas de données sur la façon d'arrêter. Les recherches suggèrent qu'environ 60 % des vapoteurs aimeraient arrêter. Enfin, les jeux d'argent. Selon le usnews.com, le conseil déclare qu'environ 2,5 millions d'adultes aux États-Unis ont un problème de jeu sévère. 5 à 8 millions de personnes supplémentaires sont considérées avoir des problèmes de jeu légers ou modérés. Nous vivons dans un monde captif. Notre monde n'a pas de liberté et n'a pas goûté la vraie liberté. Mais ça viendra. C'est de cela qu'il s'agit en voyant la liberté que représente le jour des expiations d'aujourd'hui. Revenons au chapitre 16 de Lévitique pour voir l'une des deux façons dont le jour des expiations est lié à la liberté. Lévitique, chapitre 16. Souvenez-vous de ce que vivaient les Israélites. Oui, ils étaient soumis à un travail harassant et éreintant, mais ils étaient également soumis à un esclavage spirituel. Je vais lire le chapitre 7 de l'Exode, puis après nous irons au chapitre 16 de Lévitique. Exode, chapitre 7, à partir du verset 3, nous lisons. Et moi j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Verset 4. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. Au verset 5, nous lisons, les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Non seulement les Égyptiens, mais les Israélites étaient en esclavage spirituel sous les dieux qui impressionnaient non seulement les Égyptiens, mais aussi les Israélites. Et ils ont dû apprendre que Dieu est le vrai Dieu. Avançons maintenant dans le temps jusqu'au chapitre 16 du Lévitique. Dans Lévitique, chapitre 16, Dieu a révélé des détails sur la manière dont le souverain sacrificateur devait se présenter devant Dieu au nom du peuple, un jour particulier de l'année. Lévitique 16, et nous commencerons à lire à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron qui moururent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, « Parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-delà du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. » C'est justement le jour des expiations. On peut lire le chapitre, bien sûr, mais nous allons nous reporter plutôt au verset 29. C'est ici, pour vous, une loi perpétuelle. Au septième mois, le dixième jour du mois, vous humilierez vos armes, vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Le verset 30 continue. « Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. » Il y avait eu des précurseurs. Ce concept avait été introduit avant. Le concept de couverture, de purification par l'expiation. Par exemple, dans le chapitre 6 de la Genèse, le mot utilisé ici, « couvrir », couvrir et purifier. Dans Genèse 6, verset 14, lorsque Noé a reçu l'ordre de construire une arche, nous lisons au verset 14, « Fais-toi une arche de bois, de gopher, tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. » Donc, le mot pour « nettoyer » ou « couvrir » ici dans ce cas a été traduit par « couvrir de poids »,« recouvrir ». Le mot hébreu est « kafar ». Il est également écrit « kapar », mais nous le voyons aussi parfois écrit comme « kafar », « k-a-f-r » plutôt que « k-a-p-h-r ». Si nous allons au chapitre 32 de la Genèse, nous voyons qu'il est utilisé dans le sens d'une relation. Cette expiation. Genèse chapitre 32, verset 20. Nous entrons ici dans la trame de l'histoire. Il est dit, « Vous direz, voici ton serviteur, Jacob vient aussi derrière nous, car il se disait, je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi. Ensuite, je le verrai en face, et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. » Jacob essayait donc d'apaiser, de couvrir, pour ainsi dire, ce qui s'était passé auparavant dans leur relation, afin que son frère ne le tue pas. Et si nous allons au chapitre 29 de l'Exode, nous voyons que ce sens de la relation, de la couverture et de l'expiation est utilisé en relation avec Dieu. Exode chapitre 29, nous lisons la consécration d'Aaron et de ses fils. Je ne vais pas lire tout le chapitre, mais je veux juste souligner ce mot, kafar, et la façon dont il est utilisé. Dans ce cas, faire l'expiation ou l'apaisement ou couvrir dans le sens d'une relation. Dans ce cas, non entre Jacob et Ésaü, mais entre Dieu et l'homme. C'est ce que nous voyons ici. Dans Exode 29, 32, 33. Aaron et ses fils mangeront à l'entrée de la tente d'assignation la chair du bélier et le pain qui sera dans la corbeille. Ils mangeront ainsi ce qui aura servi d'expiation afin qu'ils soient consacrés et sanctifiés. Nul étranger n'en mangera, car ce sont des choses saintes. Puis, au verset 36, tu offriras chaque jour un taureau en sacrifice pour le péché, pour l'expiation. Tu purifieras l'autel par cette expiation et tu l'oindras pour le sanctifier. Pendant 7 jours, tu feras des expiations sur l'autel et tu le sanctifieras. Et l'autel sera très saint et tout ce qui touchera l'autel sera sanctifié. Il le fait donc dans la relation entre les sacrificateurs et Dieu pour s'assurer que la relation est appropriée, que les péchés seront couverts et qu'ils pourront avoir cette relation avec Dieu. Dans Exode 30, verset 10, nous voyons un suivi. Il est dit, une fois chaque année, Aaron fera des expiations sur les cornes de l'autel avec le sang de la victime expiatoire. Il y sera fait des expiations une fois chaque année parmi vos descendants. Ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. En fait, d'une manière très puissante et dramatique, nous voyons dans Exode 32 que Dieu n'a accepté de les accompagner que par l'établissement d'un système qui traiterait de leurs péchés, qui couvrirait leurs péchés. Dans Exode 32, nous lisons l'histoire de la rébellion d'Israël contre Dieu, puis les conséquences, où leurs péchés devaient être couverts, leurs actions devaient être traitées. C'est ce que nous lisons au verset 1 d'Exode 32. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Vous connaissez l'histoire. Plus loin, dans le chapitre, au verset 30, dans la suite, « Le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. En d'autres termes, je pourrais peut-être couvrir le péché qui a été commis. » Ensuite, le chapitre 33, en avançant de quelques versets. Dans Exode 33, verset 3, Dieu dit, « Monte vers ce pays où coule le lin et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. » Dieu dit en d'autres termes, « Non, je ne monterai pas. Ce peuple est rebelle et a le cou raide. » Plus loin, dans le chapitre, nous voyons que Dieu dit, au verset 14, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Mais nous voyons comment cela s'est fait, par l'établissement d'un système d'offrandes et de sacrifices, les offrandes pour le péché. Et ce concept de kafar, c'est-à-dire de couverture, d'apaisement, d'aplanissement, d'harmonie dans les relations entre Dieu et Israël, a ensuite été compris. Ainsi, lorsque nous passons au chapitre 16 du Lévitique, nous reconnaissons que ce que nous lisons dans ce chapitre concerne un concept qui était déjà compris, une couverture, qu'elle soit physique, littéralement une couverture comme dans l'arche, ou une couverture spirituelle dans le sens du pardon et de la restauration. Vous savez, nous en avons fait dans un sens une reconnaissance de la signification de ce mot à travers une façon dont le mot couverture est utilisé dans notre langage aujourd'hui. Par exemple, nous pourrions dîner ensemble, vous et moi, et vous pourriez dire, écoutez, je vais payer l'addition. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous couvrirez le coût. Vous m'enlevez l'obligation de payer, car vous allez le faire vous-même. Cela ne veut pas dire qu'il est balayé sous le tapis et qu'il ne sera pas payé. Cela signifie qu'il sera payé et que l'obligation m'est retirée, parce que vous l'assumez. Nous comprenons un peu ce sens du mot dans certaines façons de l'utiliser dans notre langage moderne d'aujourd'hui. Ainsi, le sacrificateur, au fur et à mesure que nous avançons dans le chapitre 16 de Lévitique, et la raison pour laquelle j'ai pris ce temps est de vous montrer qu'au fur et à mesure que nous avançons dans le chapitre 16, les cérémonies qui font toute partie du jour des expiations, ce thème de couverture, un kafar, permet non seulement au sacrificateur, mais aussi au peuple de pouvoir se présenter devant Dieu et de demeurer avec Dieu. C'était un concept qui était compris. Nous voyons que les sacrificateurs, encore une fois, et le peuple étaient sous la peine ou la malédiction de la mort parce qu'ils étaient esclaves d'un système de superstition et de l'héritage qu'ils avaient des dieux égyptiens. Le système des sacrifices pour le péché, illustré par le jour des expiations, ce jour spécial de l'année, avec ses offrandes spéciales et la possibilité pour le souverain sacrificateur de se présenter devant Dieu, leur a permis d'avoir la liberté d'échapper à la mort. Lisons le chapitre 16 du Lévitique. L'Éternel parla à Moïse. Nous avons lu les versets 1 et 2, nous allons passer au verset 3. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps ses caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Il recevra de l'Assemblée des enfants d'Israël deux boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Expiation, kafar, couverture pour lui-même et pour sa maison. Verset 7, il prendra les deux boucs. Il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation à Aaron, jettera le sort sur les deux boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgera son taureau expiatoire. Nous allons lire tout le chapitre pour avoir une idée complète de ce qu'était cette journée, ce qu'il vivait chaque année. Verset 12. Il prendra un brasier plein de charbon ardent, ôté de dessus l'autel devant l'Éternel, et deux poignées de parfum odoriférant en poudre. Il portera ces choses au-delà du voile, il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage. Et il ne mourra point. Il prendra du sang du taureau, et il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient, Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple, et il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation, qui est avec eux au milieu de leurs impuretés. Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire, jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. En sortant, il ira vers l'autel qui est devant l'Éternel, et il fera l'expiation pour l'autel. Il prendra du sang, du taureau et du bouc, et il en mettra sur les cornes de l'autel tout autour. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion de sang sur l'autel. Il le purifiera et le sanctifiera à cause des impuretés des enfants d'Israël. Ce thème, les péchés d'Israël, l'impureté d'Israël, les péchés des sacrificateurs et du peuple, devait donc être couvert. Il fallait une couverture pour que Dieu puisse habiter avec eux, pour leur donner la liberté spirituelle dont ils avaient besoin. Et je parle de liberté spirituelle pour reconnaître que leurs péchés contre Dieu n'étaient pas seulement des actes extérieurs, ils étaient des violations de principes spirituels. Ces péchés ont été commis non seulement à l'encontre de Dieu, mais aussi à l'encontre de leurs semblables. Mais pour que Dieu puisse habiter avec eux, il fallait qu'il y ait une couverture. Il était important qu'ils reconnaissent, à travers ces cérémonies, comme avec d'autres offrandes pour le péché, l'impact du péché. Et il était important pour Dieu qu'ils ne pêchent pas, qu'ils ne fassent pas ce qu'ils voulaient, mais qu'ils vivent selon les lois qu'il leur avait données. Et il continue d'insister sur ce point. Comme nous le lisons. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes les iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Ensuite, verset 23, Aaron entrera dans la tente d'assignation. Il quittera les vêtements de lin qu'il avait mis en entrant dans le sanctuaire et il les déposera là. Il lavera son corps avec de l'eau dans un lieu saint et reprendra ses vêtements. Puis il sortira, offrira son holocauste et l'holocauste du peuple et fera l'expiation pour lui et pour le peuple. Il brûlera sur l'autel la graisse de la victime expiatoire. Celui qui aura chassé le bouc pour Azazel lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp. On emportera hors du camp le taureau expiatoire et le bouc expiatoire dont on a porté le sang dans le sanctuaire pour faire l'expiation et l'on brûlera au feu leur peau, leur chair et leurs excréments. Celui qui les brûlera lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour de ce mois, vous humilierez vos âmes, vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. Verset 32. L'expiation sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction et qui a été consacré pour succéder à son père dans le sacerdoce. Il se revêtira des vêtements de lin, des vêtements sacrés. Il fera l'expiation pour le sanctuaire de sainteté. Il fera l'expiation pour la tente d'assignation et pour l'autel. Et il fera l'expiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de l'assemblée. Ce sera pour vous une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année. L'expiation pour les enfants d'Israël, à cause de leurs péchés. On fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Je pense qu'il est important de lire le chapitre entier pour voir le jour entier, tout ce qui s'est passé, qui avait été ordonné par Dieu. Pourquoi? Pour souligner leur besoin d'être libérés du péché, d'être couverts des conséquences du péché, de voir ces conséquences être supprimées, être couvertes. En particulier, nous réalisons qu'il s'agit d'un type de ce qui devait venir, le sacrifice à venir, qui nous permettrait, en fin de compte, de couvrir nos péchés devant Dieu. Nous lisons donc l'ensemble de l'événement dans Lévitique chapitre 16. Mais le jour des expiations ne se limite pas à cela. Allons au Lévitique 25, car le Lévitique 16 ne s'arrête pas là. Lévitique chapitre 25, à partir du verset 8. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois cette année, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Quand cela s'est-il produit? Le jour des expiations. Imaginez ce qui s'est passé ce jour-là. Pensez-y. Verset 10. Et vous sanctifierez la 50e année, vous publierez la liberté dans le pays. Pour tous ses habitants, ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille, où il a son héritage ancestral. Ce mot vient d'une racine qui signifie saisir, c'est-à-dire s'accrocher à ce qui appartient à sa famille. Imaginez ce que cela aurait été pour le peuple d'Israël. Imaginez l'impact que cela aurait eu sur l'économie et toute la structure sociale. En vérité, votre vie aurait été basée sur ce que vous faites, la compétence avec laquelle vous accomplissez votre travail, et non pas sur le capital, la monnaie ou les comptes bancaires. Il vivait dans une société où l'ancrage de base du capital était la terre et ce que l'on en faisait. Si vous réfléchissez à l'impact que cela aurait eu sur l'économie, l'expérience aurait été tellement différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Imaginez que nous appliquions l'année jubilaire dans notre pays aujourd'hui ou dans la plupart des pays du monde. Notre système économique serait totalement changé, bouleversé. Et pourtant, cela produirait une société dans laquelle 1% de la population ne posséderait pas 90% ou plus de toutes les ressources. Ce scénario n'existerait tout simplement pas dans le cadre de ce que nous lisons ici. Absolument pas. Et la beauté de la chose est la suivante. La liberté physique étant exercée en même temps que le jour des expiations. Quelle puissante leçon de liberté en ce jour! Il ne s'agit pas seulement d'une libération spirituelle du péché, mais aussi, dans le pays d'Israël, tous les 50 ans, d'une libération physique de la dette, de la perte de terre et de propriété, de maison. Le jubilé permettait à chaque personne de prendre en fait un nouveau départ dans la vie. Cela changerait la façon dont les gens achètent, vendent et même la façon dont ils abordent le commerce. Imaginez la possibilité de prendre un nouveau départ. Retrouvant l'héritage ancestral, la terre qui avait été donnée à votre famille. Vous savez, lorsque nous pensons à la terre ou à la propriété que nous conservons pour nos enfants et nos petits-enfants, nous l'abordons différemment. On plante des arbres, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour nos enfants et petits-enfants. En revanche, si vous avez le sentiment que vous ne resterez pas longtemps dans un endroit donné, ou que ce n'est pas quelque chose qui restera dans votre famille, l'approche est beaucoup plus nonchalante. Comment appliquer cette leçon aujourd'hui? Nous avons parlé du chapitre 16 de Lévitique. La familiarité avec l'idée de couverture, d'apaisement, de réparation des relations entre les personnes et, plus important encore, entre l'homme et Dieu. Telle est la leçon enseignée par le jour des expiations. Mais elle a également été enseignée en conjonction avec cette liberté physique par le biais de l'année jubilaire. Comment appliquer cela aujourd'hui pour nous? Revenons au chapitre 23 du livre de Lévitique. Lévitique, chapitre 23, à partir du verset 26. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Le dixième jour de ce septième mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. » Nous voyons donc ce commandement placé parmi les jours saints, avec un accent particulier dans le contexte de ces célébrations, non seulement pour les anciens Israélites, mais aussi pour nous aujourd'hui. Le verset 28 continue ainsi. « Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est une loi perpétuelle pour vous, pour vos descendants dans les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. Dès le soir du neuvième jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre sabbat. » Lévitique 23 nous montre donc ce qu'il faut faire. Mais la question est de savoir pourquoi maintenant. Pour cela, revenons à Lévitique chapitre 16. Je parle pour nous en ce moment. Comment appliquons-nous cela aujourd'hui? Relisons le Lévitique 16, verset 29. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au septième mois, le dixième jour du mois, vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Verset 30. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. C'est l'énoncé de l'objectif spécifique, pourrait-on dire. L'objectif de cette journée, nous aider à nous purifier, nous rappeler notre besoin de devenir propre et pur devant Dieu. Rappelez-vous au verset 19, nous avons lu ce que le sacrificateur devait faire. Il fera avec son doigt sept fois l'aspersion du sang sur l'autel. Il le purifiera et le sanctifiera à cause des impuretés des enfants d'Israël. Et encore, au verset 30, « Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. » Cela nous ramène à Jacob. Revenons à Genèse 35. J'ai mentionné Jacob plus tôt et l'idée de couvrir ou d'apaiser, dans ce cas son frère. Mais ici, nous voyons que Jacob devait faire son propre ménage. Et Genèse 35, 1 et 2. Lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut. Lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère, Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, « Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. » Il y a eu un moment où Jacob, pour s'approcher de Dieu, a dû mettre de l'ordre dans sa propre maison. Pour nous, cela fait partie de la leçon. Il ne s'agit pas seulement d'obtenir le pardon de nos péchés, mais de devenir pur, d'être en harmonie avec Dieu. Voilà un point majeur, un point très important, de devenir en harmonie avec Dieu. Si vous cherchez le mot « expier » dans un dictionnaire biblique, ou mieux encore, dans un manuel d'étymologie ou d'histoire des mots, vous verrez des choses intéressantes. Dans les années 1590, « atone » en anglais signifiait « être en harmonie ». Ça signifiait « être d'accord » ou « être en accord ». Il vient de la contraction de deux mots anglais, « at » et « one », qui veut dire en français « devenir un ». Dans les années 1660, le sens s'est élargi pour inclure la réparation d'erreurs ou de déficiences. Dans les années 1680, il s'agissait également de procéder à des réparations. Dans les années 1850, Ainslie Wedgwood, dans son Dictionary of English Etymology, il le définit comme suit. Je cite, « Il s'agit de faire l'unité, de se réconcilier et donc de souffrir les douleurs des sacrifices nécessaires à une réconciliation. » Je crois savoir que le mot « expiation » a été plus largement utilisé par les traducteurs de la version King James de 1611. Par exemple, dans la Bible de Genève, si vous lisez Lévitique 23, versets 26-27, il est dit « Le dixième de ce septième mois sera le jour de la réconciliation. » Sera le jour de la réconciliation. Ce que je veux dire par là, c'est que l'idée d'expier est apparue plus tard, mais que le sens de la réconciliation était déjà présent, même dans des traductions antérieures, comme la Bible de Genève. La question est la suivante. Ce jour, le jour des expiations, nous rappelle que si nous nous repentons, nous n'avons pas à porter la culpabilité, nous n'avons pas à porter la honte, nous n'avons pas à porter le fardeau des erreurs, des lacunes ou des regrets. Être en harmonie avec Dieu et accepter l'expiation de Dieu, accepter la réconciliation qu'il nous offre, ne signifie pas que nous sommes pardonnés, mais que nous devons toujours continuer à porter le poids mental et spirituel de nos péchés. Absolument pas. Au contraire. Nous sommes libérés. Reportons-nous à Psaume, le chapitre 51, s'il vous plaît. C'est une belle prière, une prière de repentance de la part de David. Psaume 51, versets 3 et 4. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. David décrit ce que Dieu lui offre gratuitement, la purification. Verset 9, « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » Et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Il ne s'agit pas seulement de pardon, mais aussi d'harmonie. C'est une question de liberté. Il s'agit de ne pas avoir à porter la culpabilité de nos fautes, car Dieu n'exige pas que nous continuions à accumuler le fardeau de nos péchés. Au contraire, il nous offre la possibilité d'être pardonnés et de voir nos péchés être effacés complètement. Vous savez, Israël était censé être en harmonie avec Dieu et pas seulement pardonné par lui. Allons au chapitre 4 du livre de Deutéronome. Deutéronome, chapitre 4, verset 1. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Puis au verset 5, Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Et au verset 6, vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. » Dieu voulait qu'ils mettent de côté leurs fautes, leurs péchés et les superstitions de l'Égypte et qu'ils vivent d'une manière entièrement nouvelle, qu'ils ne deviennent pas seulement un peuple pardonné, mais un peuple qui soit une force pour vivre selon le bien, un peuple en harmonie avec Dieu. Allons au chapitre 34 de l'Exode, en commençant par le verset 29. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa main, en descendant la montagne. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Puis, au verset 35, les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait, et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entre pour parler avec l'Éternel. Moïse laissait vraiment briller sa lumière. On pourrait dire qu'il était illuminé. Il était une force visible. On comprenait qu'il avait été avec Dieu, car son visage rayonnait littéralement. Nous n'avons aucune idée de la manière dont Dieu a fait cela. Mais ce que nous savons, c'est que le peuple l'a reconnu. Il avait été en présence de Dieu. Passons maintenant au chapitre 5 du livre de Matthieu. Je pense qu'il s'agit là d'un excellent modèle à considérer. Moïse, d'une manière très réelle et littérale, était considéré comme quelqu'un qui avait été avec Dieu. Et nous sommes appelés à être considérés de la même manière. Maintenant, je comprends que ce qui est dit dans Matthieu 5 est plus une parabole ou une illustration. Il n'y a pas de lien direct avec Moïse, mais je pense que le point est toujours valable et mérite d'être pris en considération. Commençons par Matthieu 5, verset 13. Il doit être évident que nous sommes de Dieu, que nous sommes comme Dieu, que nous le glorifions, que nous agissons comme lui, que nous reflétons ce qu'il est. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Écoutez, à quoi bon nettoyer les phares de notre voiture si on ne les allume pas? Nous ne sommes pas seulement pardonnés de nos péchés, nous sommes libérés, ce qui nous permet d'être proactifs dans notre vie. Passons maintenant à Matthieu chapitre 6. Comment appliquons-nous ce principe? Nous reconnaissons, nous admettons et nous vivons une vie de liberté spirituelle. C'est le point que j'ai essayé d'illustrer. Il ne s'agit pas seulement de la liberté spirituelle, mais aussi d'une forme de liberté physique. Il y a les deux. Permettez-moi d'expliquer ce que je veux dire. Matthieu 6, à partir du verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. En d'autres termes, si nous avons foi en Dieu, si notre foi est dans l'avenir, pas seulement dans cette vie, alors cela nous donne aussi la liberté physique. Elle nous permet de ne pas être accablés par les affaires de cette vie comme le sont ceux qui n'ont pas d'espoir. Il dit dans Matthieu 6, verset 32, « Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, car toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Tout au long du Nouveau Testament, il nous est dit que nous recevrons le centuple de ce à quoi nous renonçons et que nous hériterons de la vie éternelle, comme nous le lisons dans Matthieu chapitre 19. Dans 2 Timothée 4, verset 8, nous lisons qu'une couronne de justice nous est réservée. Cela devrait avoir un impact sur notre façon de vivre, non seulement sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan physique. Chaque jour, rendons-nous maintenant à Romains, au chapitre 8. Romains, chapitre 8. Verset 12. « Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. En d'autres termes, nous ne sommes pas asservis à cette chair et à ce qu'elle apporte, ce qui, en fin de compte, n'est rien. » Si tout ce que nous avons, c'est la vie physique, alors c'est rien du tout. Mais nous ne sommes pas esclaves du physique. Même sur le plan physique, nous jouissons d'une sorte de liberté, d'une libération qui nous dispense d'être liés uniquement à ces années physiques que nous avons. Parce que nous savons qu'il y a plus. Il y a beaucoup plus que ça pour nous. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Tout cela est clair. Nous sommes en mesure d'expérimenter une liberté physique ainsi qu'une liberté spirituelle. Si nous acceptons la leçon du jour des expiations. Il y a une partie de l'image que je veux inclure avant de terminer. Une autre partie de l'image que je veux inclure avant de terminer. Revenons à Lévitique, au chapitre 16, là où nous avons commencé. Lévitique, chapitre 16, à partir du verset 8. Aaron jettera le sort sur les deux boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel, et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Dès le début, dans Genèse 2 et 3, nous avons entendu parler d'un être qui veut nous mettre en esclavage. Cet être, vous le savez, c'est Satan, le diable. Nous lisons dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Satan veut nous dévorer, nous tenir en esclavage et nous empêcher de recevoir la liberté, la vraie liberté que Dieu offre. Mais nous lisons ensuite son sort dans chapitre 20 d'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 20, versets 1 à 3. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations. Quelle bénédiction ce sera de vivre dans un monde sans Satan! Quelle bénédiction merveilleuse! Et vous savez, l'ironie est que Satan, dans son défi à Ève et à Adam, ne leur a pas donné plus de liberté, au contraire, moins de liberté. Il a fait croire qu'il leur offrait plus de liberté de choix, mais non! Vous savez, Adam et Ève ont reçu de Dieu un choix. En effet, un choix, mais avec des instructions et avec la clarté nécessaire. Mais par une tromperie et un mensonge, Satan a effectivement supprimé le bon choix. Et à cause du péché d'Adam et d'Ève, ils ont été chassés du jardin, coupés ainsi de la révélation de Dieu. Depuis lors, l'humanité a convoité la liberté de choix, la liberté de choisir, mais sans avoir l'esprit ouvert à Dieu et à sa révélation, il n'a pas du tout le menu nécessaire, pour ainsi dire. Les enfants d'Israël avaient le choix entre la voie de Dieu et la mauvaise voie. Vous pouvez noter Deutéronome 30 et le verset 19, où il est dit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort ». La bénédiction et la malédiction. Il leur dit, je vais donc vous dire quel est le bon choix. C'est ce qu'il dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Ainsi, jusqu'à aujourd'hui, même si Dieu a offert ce choix à Israël, nous voyons malheureusement, les Israélites ont été aveuglés et qu'ils ont choisi la désobéissance à Dieu. Mais l'humanité dans son ensemble n'a pas vraiment eu la liberté de choix, parce qu'elle a été coupée de la révélation de Dieu et certainement de l'Esprit de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 3. Israël avait un cœur de pierre. Ils ont été aveuglés. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 1. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? Verset 4. Cette assurance, nous l'avons. Encore une fois, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 4. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire ait été passagère, combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est beaucoup plus supérieur en gloire. Et, sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a pas été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Même l'éclat du visage de Moïse, même, pourrait-on dire, le fait de vivre la lettre de la loi sans l'Esprit de Dieu, afin que le cœur soit en harmonie avec Dieu, n'est pas comparable au fait d'être finalement en harmonie avec Dieu, au point de pouvoir littéralement faire partie de sa famille spirituelle. Il n'y a pratiquement aucune comparaison possible. C'est ce que nous voulons dire. Il dit au verset 12, « Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté, et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager, mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Il dit ensuite au verset 16, « Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. » Nous avons une merveilleuse occasion de jouir d'une liberté que l'humanité n'a jamais connue. Nous avons cette liberté aujourd'hui grâce à l'Esprit de Dieu. Mais finalement, lorsque Satan sera lié et que sa liberté lui sera retirée, l'humanité aura l'occasion de voir le choix de l'obéissance à Dieu et comment cela donne une liberté par rapport au poids du péché et à la destruction qu'il apporte sur la terre. Nous voyons dans Michée comment les nations iront à Sion. Elles iront au Dieu de Jacob, qui enseignera ses voies, et elles diront, « Nous marcherons dans ses sentiers. » Nous lisons cela dans Michée, expliquant comment la loi sera promulguée. En guise de conclusion, j'aimerais vous laisser sur une petite anecdote familiale. Je voudrais juste mentionner un ancêtre qui fait partie de notre arbre généalogique et qui s'appelle Andrew McNair. Andrew était surtout connu pour être le gardien du Congrès continental. Il a été le sonneur officiel de la Liberty Bell de 1759 à 1776 et l'a probablement fait sonner pour annoncer l'indépendance le 8 juillet 1776. Les archives de l'American Philosophical Society indiquent que le 22 mars 1768, la société a engagé Andrew McNair pour faire du feu, allumer et éteindre les bougies et assurer la propreté de la salle de réunion pour 4 shillings par nuit. J'ai lu cela et je me suis dit que c'était intéressant. Vous savez, j'ai travaillé moi-même dans le service d'entretien au collège, un peu comme lui, et j'étais loin de me douter que je perpétuais une tradition familiale. Qu'est-ce qu'un gardien comme McNair peut bien nous apporter aujourd'hui? Voici le lien. Il y a une inscription sur la Liberty Bell à Philadelphie. Elle se lit comme suit. « Proclamez la liberté dans tout le pays, à tous ses habitants. » C'est un extrait du Lévitique. Et il est écrit sur la cloche, « Par ordre de l'Assemblée de la province de Pennsylvanie pour la Maison d'État à Philadelphie. » L'inscription est tirée de Lévitique 25, verset 10, que nous avons lu précédemment. « Et vous sanctifierez la 50e année, vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. » Alors que nous célébrons cette journée, apprécions la bénédiction que Dieu nous a donnée. Premièrement, savoir que Dieu nous a libérés de l'esclavage spirituel, certes de l'esclavage des superstitions et de l'ignorance pure et simple qui constitue un faux système d'adoration répandu dans notre monde aujourd'hui, mais aussi de l'esclavage de la culpabilité et de la honte. Avec le repentir et le pardon de Dieu, nos péchés sont pardonnés et nous pouvons être en harmonie avec Dieu et nous sommes libres d'être des agents de bien, pas seulement nettoyés de nos mauvaises actions. Deuxièmement, notre vie physique prend un nouveau sens lorsque nous ne sommes pas enchaînés et limités au physique. Une année de jubilé est un merveilleux outil économique pour la société humaine, mais notre nouveau départ commencera vraiment, non pas avec la trompette du jubilé, mais avec le son des trompettes lors du jour du retour du Christ. Pour nous, grâce à l'appel de Dieu et à son esprit, l'aveuglement causé par Satan a déjà été supprimé. Nous avons retrouvé la vue. Nous reconnaissons clairement les choix qui s'offrent à nous, contrairement au monde qui nous entoure. Mais le temps viendra où tout cela changera. le jour des expiations devenant véritablement un jour de liberté pour toute l'humanité.